Bonjour Ndina Milo, Apoya, Letienle, on peut continuer dans toutes les langues du Togo, justement par exemple à Réunion Tchanyaou.
Bavenkozo,
là nous saluons les auditrices auditeurs du centre du Togo qui nous reçoivent également sur les ondes de Radio Centrale FM à Sokoré. Nous saluons également ceux qui écoutent le club La Presse sur les antennes de Radio Courtoisie à Dapan, Radio Daoul à Bassa, Radio Sama FM à Baga, côté de Niamtougou. J'ai déjà cité Centrale FM à Sokoré, Radio La Paix, la voix des plateaux à Takpamé, Radio Lumière à côté à Nero ici. Mais nous sommes en communion avec ceux qui nous écoutent dans le monde entier par le biais des radios numériques Ebene Radio, Radio Gameli, l'application Canal FM ou encore la chaîne YouTube. Ainsi, vous pouvez regarder comment mes invités sont joliment habillés aujourd'hui, n'est-ce pas? À la technique, Michel Vitogbe Koku Tomenga. Vous rappelez, je ne sais pas si on a fait un classement, mais Michel doit être l'un des tout premiers orphelins de cette année 2023. C'est le 1er janvier 2023 qu'il a perdu son papa. Mais il est là, je le retrouve avec beaucoup de sourire, n'est-ce pas Michel? Merci beaucoup, c'est la preuve que tu es un grand garçon. Et que tu vas maintenir la mémoire de papa. Surtout si on s'appelle un Tomega, n'est-ce pas? Voilà, et nous retrouvons ce studio. Vous imaginez déjà toute l'émotion, tout le plaisir. 2 semaines pour nous reposer un peu. Mais c'est 2 semaines qui nous ont permis de faire une immersion dans le club de la presse à distance. Oui, c'est un paradoxe. C'est pendant que j'étais loin que j'ai pu faire mon immersion dans le club de la presse. Comment ne pas remercier les techniciens Michel Vitogbe Tomenga et Jérôme Dakoucha qui n'est pas là aujourd'hui. Remercier Fousseni Saïbou, le bon Kotokoli du club de la presse. Et également Pascal Lossou Komi, qui ont animé le club La Presse durant ces 2 semaines. Merci également aux confrères et autres personnes ressources qui ont chauffé le studio pendant ces 15 jours. Alors nous renouons avec la tradition de démarrer le club La Presse avec une pensée du jour. Et aujourd'hui le sage nous dit, citation, « J'admire la vérité du temps. Elle révèle toujours la réalité des choses et surtout des gens. » Encore une fois, j'admire la vérité du temps. Elle révèle toujours la réalité des choses et surtout des gens. Bienvenue au club de la presse de ce lundi. Nous sommes le 23 janvier 2023. Il sonne 11h, passé de 4 minutes. Et vous savez déjà que sur le coup de 12h, vous pourrez entrer en ligne en composant le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75 pour co-animer avec nous. Harry Miaou Tchanyaou, rebonjour.
Bonjour Sasse, bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonne semaine de travail à tous et à toutes.
Merci, notre ami Didier vient de me saisir qu'il a un empêchement de toute dernière minute. Et nous attendons un autre confrère, nous assurons qu'il soit là avant de vous l'annoncer. Mais Harry Miaou, je peux déjà te dire que nous allons parler aujourd'hui, nous allons revenir sur la conférence parlementaire de haut niveau que le Togo a abrité la semaine dernière. Conférence qui a planché sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent et l'engagement des jeunes en Afrique. Les engagements ou bien les pistes tracées par cette conférence et surtout sa mise en œuvre et également la lutte contre le terrorisme au quotidien avec le nouveau commandant de l'opération Kundjuare qui vient d'être nommé et autre sujet. Voilà le menu qui va nous occuper avec d'autres sujets, notamment quand Nouvelle Opinion annonce une très belle nouvelle entre la préfecture de Tchaoudja et de Tchamba ce matin, n'est-ce pas, Rémiaou?
Tout à fait. Peut-être que pendant que nous sommes ici au studio, les choses sérieuses se passent.
Gardons quand même un peu le secret, oui. Le temps que nous arrivions sur ce sujet. Oui. Autre sujet sur lequel nous allons revenir, c'est l'atelier qui s'est tenu à Lomé hier, plutôt la semaine dernière. Un atelier qui a planché sur la médecine sportive avec un plan stratégique qui a été adopté à l'issue de cet atelier. Cela nous intéresse notamment en quoi les résultats de cet atelier, de ce plan, vont impacter positivement les performances de nos sportifs ici au Togo. Nous allons en parler pour cela de personnes ressources. Le chargé de la communication au ministère des Sports, notre vieil ami et vieux confrère, bonjour.
Bonjour, doyen Sass, bonjour au doyen Harim Yaou également et à tous ceux et celles qui nous suivent sur Canal FM que j'appelle souvent RFI du Togo.
Merci beaucoup. Tu nous rappelles tes noms, prénoms ?
C'est Gilbert Halba.
Gilbert Halba, il n'y a pas un prénom du Togo ?
Oui, il y a un prénom, c'est Wenmi, W-E-N-M-I.
Encore une fois ?
Wenmi.
Wenmi. Eh bien, moi, je suis Kodjo Tété. Quand on dit Kodjo, ça veut dire que je suis un garçon né lundi. Et quand on dit Tété, ça veut dire que je suis garçon, premier garçon de mon père ou bien de ma mère. Voilà. Super. Toute la philosophie que véhiculent nos prénoms. Nous sommes d'accord ?
Parfaitement d'accord.
Eh bien, de plus en plus, déclinons nos prénoms dans les langues de notre pays. C'est ce que Dr Pata va faire, n'est-ce pas ? Dr Pata, bonjour.
Bonjour. Bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de Canal FM.
Dr Pata Cedro, vous êtes directeur de la médecine des sports et du contrôle de dopage au Togo. Eh bien, c'est avec vous deux que nous allons revenir sur cet atelier et ce plan stratégique dont le monde du sport togolais vient de se doter. Mais Harry Miaou, devoir de mémoire, nous allons partir au Cameroun en mémoire d'un confrère, ou plutôt d'un feu confrère, Martinez Zogo. Il était animateur vedette de l'émission Embouteillage sur la radio Amplitude FM à Yaoundé. Les connaisseurs de cette émission décrivent le confrère Martinez Zogo qu'il évoquait, fustigeait, dénonçait avec une certaine satire les travers de la gouvernance ainsi que les faits supposés ou réels de corruption au Cameroun. Martinez Zogo avait subitement disparu il y a quelques jours et hier, son corps sans vie a été retrouvé, portant visiblement des traces de torture et autres sévices. Harry Miaou, ainsi va la vie de journaliste. En Afrique comme ailleurs, la voix des sans-voix, ce métier, cette profession qui n'est pas sans danger, qui n'est pas sans risque, nous venons de le voir avec Martinez Zogo.
Harry Miaou. Oui, je crois que je connais très bien le confrère. Je suis allé plusieurs fois au Cameroun. J'ai des amis, je suis allé à la rédaction de Amplitude et dans beaucoup de rédactions camerounaises. Et je crois que c'est un confrère qui a la passion de son boulot et, comme tu viens de le dire, le travail de journalisme est à double tranchant. Parfois, vous le faites si bien, avec beaucoup d'ouverture, de sincérité, mais de l'autre côté, il y a des gens qui soit apprécient ou ne sont pas d'accord avec tout ce que vous faites. Et par rapport à ce qui lui est arrivé, ce n'est pas une première. Dans le monde entier, tout le temps, il y a eu de ces malheurs qui arrivent aux journalistes. Au Ghana, récemment, un peu partout, nous avons toujours en mémoire tous les confrères ou toutes les consoeurs qui ont eu le même sort. Tout ce que je peux dire ici, c'est que les faits ne sont pas entièrement élucidés. Personne n'a dit comment et pourquoi cela est arrivé. Mm-hmm. Et c'est de dire ici que notre métier, c'est un noble métier. Et nous sommes fiers de l'exercer, mais que les citoyens ou tous ceux qui nous suivent, nous écoutent ou nous lisent, qu'ils fassent beaucoup de grâce, qu'ils pardonnent, qu'ils acceptent avec hauteur tout ce que nous sortons de nos bouches ou ce que nous écrivons. Nous ne le faisons que pour édifier la cité. Nous ne le faisons pour que la cité soit autrement construite. Et nous le faisons pour le bien des uns et des autres. Vivement que ceux qui tapis dans l'ombre ont des idées macabres ou des intentions malsaines envers les journalistes, qu'ils lâchent et qu'ils fassent en sorte que la cité soit construite de toute beauté avec tout ce que nous apportons comme contribution pour l'édification d'une nation démocratique et sereine.
Voilà Martinez Zogo que les auditeurs de Amplitude FM à Yaoundé ne pourront plus écouter dans son émission vedette Embouteillage. Bon, on vient de retrouver son corps sans vie. Tout porte à croire qu'il aurait fait l'objet de sévices. Mais comme a dit Harry Miaou, laissons le soin aux investigations de nous situer sur les circonstances dans lesquelles Martinez Zogo a disparu, ce qui lui est arrivé. Et puis que la justice nous éclaire là-dedans. Mais l'occasion encore pour nous de prendre acte que au Togo, Dieu merci, depuis quelques années, nous n'avons plus à nous plaindre de telles disparitions tragiques de journalistes, de confrères qui soient obligés de fuir le pays, qui fassent l'objet de tortures, même si de temps en temps il y a quelques quiproquos avec un peu. Les convocations par-ci, les convocations à la justice. Mais Jacques Laya, Jacques Outi, bonjour d'abord.
Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM.
Oui, je disais tantôt que tout en portant en mémoire notre confrère Martinez Zogo, c'est quand même un constat que depuis quelques années, au Togo ici, nous n'avons plus à nous plaindre de telles infortunes faites aux hommes et aux femmes des médias.
Justement, je voudrais d'abord à l'entame de mes propos, comme c'est ma première fois de venir ici en 2023, souhaiter mes voeux les meilleurs aux auditeurs, auditrices de Canal FM, à tout le personnel, les techniciens de Canal FM, à la population togolaise, mes meilleurs voeux de santé, de paix et de bonheur aux autorités togolaises. Que la grâce du Seigneur continue toujours par les illuminer pour qu'ils puissent vraiment se pencher sur le bien de ce peuple. Harry Miaou disait quelque chose tout à l'heure. Tout ce que nous avons offensé au cours de l'année...
Tout ce que nous aurions
offensé au cours de l'année dernière. Et c'est le lieu de paraphraser un artiste qui a dit « Nous demandons pardon ». Vous savez, nous ne sommes pas des hommes accomplis, parfaits. Nous avons toujours des défauts. C'est vrai que souvent nos propos ici sur cette antenne ne plaisent pas à certains, blessent certains, mais c'est le lieu de demander pardon aux uns aux autres par rapport aux propos blessants, désobligeants que nous aurons tenus sur cette antenne. À toi, Sass, merci pour ta disponibilité et ma prière est que Dieu te donne la santé. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Parce que si tu as la santé, le reste là, tu vas négocier. L'argent se négocie, l'argent se cherche. Mais vous savez, quant à ce qui concerne la santé, c'est Dieu seul qui donne la santé. Ma prière est que Dieu te donne la santé et que tu continues toujours par animer cette émission comme tu le fais tous les jours.
Merci Jacques. Je partage tes souhaits avec vous tous ici au studio,
Amen.
Les techniciens,
Amen.
Tous les confrères, Amen. Toutes les personnes ressources qui se rendent disponibles pour nous. Nous avons tous besoin de la bonne santé, de tout ce qui s'ensuit, mais également nos auditeurs et auditrices, où qu'ils soient, il faut qu'ils soient également en bonne santé pour nous écouter, co-animer avec nous, et puis nous envoyer quand même de temps en temps des flèches, des pics qui nous amènent à nous améliorer, n'est-ce pas,
Jean? Non, je suis d'accord avec toi, Sass, et toute la population togolaise. Certainement que certains, cette année, attendent les bienfaits de Dieu. Peut-être s'il y a certains couples qui sont là qui n'ont pas d'enfants. Ma prière est que cette année, que le Seigneur ouvre les vannes où les enfants peuvent passer pour que les couples là puissent avoir d'enfants. Et ceux qui sont là qui veulent se marier également, que le Seigneur ouvre les vannes. Et ceux qui cherchent également du boulot, que Dieu puisse ouvrir également les portes pour que les gens puissent trouver du boulot. À chacun, à chacune d'entre nous, comme le disait Monseigneur Bariga, que chacun fasse sa part et Dieu va s'occuper de nous.
Amen,
vous avez évoqué tout à l'heure... cette épineuse question, c'est vrai, ça, vous savez, ce qui s'est passé au Cameroun, c'est quand même triste et déplorable qu'un journaliste puisse dénoncer des faits et qu'on l'assassine comme ça.
Bon, vraiment... Il n'est pas encore établi relation de cause à effet entre les émissions qu'il anime, les circonstances dans lesquelles il a disparu et qu'on l'a retrouvé mort.
Mais tout porte à croire,
justement.
Voilà, que c'est ça. Donc... au Togo, comme vous l'avez si bien dit, Dieu plaise à Dieu, parce que ce que nous constatons dans ce pays, vous savez, le Togolais n'est pas trop méchant. Le Togolais n'est pas trop méchant, et souvent, Le Togolais a peur de prendre le couteau, le coupe-coupe sur son compatriote. Et ma prière est que cela reste ainsi. Et que, comme Arim Yaou le disait tout à l'heure, si par exemple un journaliste tient des propos, un journaliste écrit quelque chose qui ne vous plaise pas, il y a des voies. Il y a soit la HAC, il y a peut-être aller même vers l'organe, peut-être qui vous a blessé ou bien offensé. Il y a ce que nous appelons le droit de réponse. La personne peut publier votre droit de réponse. Si vous n'êtes pas d'accord, la HAC est là. Si vous n'êtes pas d'accord avec la HAC, vous pouvez aller à la justice. Mais plaise à Dieu que les gens puissent assassiner. Ça, vous savez, la vie est tellement chère. Hein? Porter un enfant pendant 9 mois et que la femme mette cet enfant au monde, que l'enfant commence le CP1, l'enfant aille jusqu'en terminale, commencer par travailler, et qu'un matin l'assassine comme ça, c'est vraiment pénible. Vraiment que cela n'arrive pas sur la terre de nos aïeux, que les journalistes qui sont en train de faire leur travail, si vous êtes vraiment mécontent de ce journaliste, vous avez les voies de recours. Le CONAP est là, le JT est là, l'OTM est là. Vous pouvez vraiment aller vers ces associations et organisations pour régler vraiment les différends. Et l'autre aspect pour m'arrêter, il faudrait également que nous journalistes aussi, nous soyons prudents. Il faut que nous soyons prudents dans le travail que nous sommes en train de faire, le métier que nous sommes en train d'exercer. Parce que vous savez ça, nous n'avons pas tellement une protection. La seule protection, c'est notre prudence. Il faut que nous soyons prudents. Lorsque nous avons par exemple des dossiers, il faut que nous puissions vraiment mettre les gants avant de pouvoir publier ces dossiers-là. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, vous savez, l'ennemi est toujours tapis dans l'ombre. L'ennemi est tapis dans l'ombre. Vous publiez un dossier, si la personne n'est pas d'accord avec vous, il risque de vous créer effectivement du mal.
Merci. Comme tu le disais, nous les médias, nous sommes ouverts aux rectificatifs et aux mises au point. La preuve, hein, c'est ce que nous donne aujourd'hui le quotidien Liberté, qui dans sa parution de ce lundi 23 janvier 2023 revient sur un article qui avait été publié il y a quelques jours sur le ministère d'État chargé des affaires présidentielles. Eh bien, le Liberté opère publie aujourd'hui un rectificatif. Le ministère d'État chargé des affaires présidentielles est légal et ne dépend pas du gouvernement. Ça veut dire que suite à l'article de Liberté, le dit ministère a réagi pour envoyer un droit de réponse au confrère Liberté qui le publie aujourd'hui. C'est ainsi que nous sommes appelés à évoluer de mieux en mieux pour qu'on n'ait pas à se plaindre d'une radio fermée, d'un journal dont le récépissé est retiré ou encore que d'un journaliste qui soit obligé de fuir le pays, encore pire qu'on le retrouve inanimé. Jacques le disait, le Togolais n'est pas méchant, c'est vrai. Mais il y a des gens méchants qui viennent nous chercher querelle. Notamment ceux qui viennent nous créer des problèmes de terrorisme, d'extrémisme violent. Une question qui nous empoisonne la vie au Togo depuis de nombreux mois, pour ne pas dire de nombreuses années, et qui pollue l'atmosphère dans toute la région, en Afrique. Le gouvernement mène le combat au quotidien. On vient d'apprendre que l'opération Kundjouaré vient d'avoir un nouveau commandant à sa tête. Mais les parlementaires également ne se laissent pas indifférents. La preuve, bien qu'ils soient en congé, les députés se sont invités à cette conférence parlementaire de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent et l'engagement des jeunes en Afrique, une conférence qui a mobilisé entre 400 et 500 invités venus du Togo et de par le monde. Nous avons appris que ces honorables invités sont venus de l'Union interparlementaire, de l'Union parlementaire africaine, même du comité du G5 Sahel, de différentes assemblées parlementaires du gouvernement. Il y avait même des associations de jeunes. Certains étaient en présentiel, d'autres à distance. Alors, la conférence a clos ses portes il y a quelques jours, mais nous y revenons, notamment avec ce que disent les journaux, notamment Togo Matin qui écrit, en paraphrasant un peu les propos de Dame Tchégan, la présidente de l'Assemblée nationale, à l'ouverture et ou à la clôture des travaux, quand Madame Tchégan disait, je cite, « agir rapidement » pour mettre fin aux souffrances des populations meurtries. Nouvelle opinion, Le journal de notre ami Tchagnao revient également sur la conférence parlementaire sur la lutte contre le terrorisme en Afrique avec les recommandations des parlementaires aux États. Et puis, Liberté, dans sa publication du vendredi, qui ironisait un peu, parlant de cette profusion de rencontres internationales, alors que de l'autre côté, il y a absence de réelle initiative de développement. Arim Yaou, ton journal revient sur les recommandations que les parlementaires ont émises à l'endroit des États.
Oui, avant même de venir à ces recommandations, je voudrais que vous me permettez de prendre quelques secondes pour vraiment féliciter l'hémicycle actuel au Togo. Vous savez, quand en 2018, cette assemblée a été mise sur pied, les gens ont été élus.
Sinon, les gens croiraient qu'on l'a nommé par un coup de plume.
Oui, okay. Quand cette assemblée a été élue, il y a eu beaucoup de choses que nous avons entendues dans le pays, d'aucuns disant que c'est une assemblée mouton, vous m'excusez l'expression, d'aucuns...
L'assemblée mouton date depuis quelques années, c'était...
Non, ils l'ont dit également, la dernière fois. Ils disent la dernière fois, ça a été répété avec cette assemblée-là. Parce que vous savez que tout le monde n'est pas présent à l'assemblée, donc il y avait de ces commentaires-là. Mais j'avoue que c'est une assemblée, Madame Tchégan et tous les députés, moi je suis émerveillé, c'est l'assemblée avec laquelle nous avons opéré beaucoup de réformes. C'est l'Assemblée qui a orienté le Togo vers beaucoup de choses. Et aujourd'hui, elle réitère, rebelote, c'est une Assemblée qui a vu juste. Et quand les gens pensent qu'il y a des rencontres internationales au Togo et qui ne donnent absolument rien, moi je crois que non. Le Togo est un carrefour aujourd'hui de bonnes décisions. Le Togo est un carrefour du concret. Et actuellement, tous les pays d'Afrique, pourquoi pas du monde, sont terrorisés, secoués et traumatisés par le phénomène que vous venez d'évoquer. Et Dieu aidant, c'est au Togo que la première fois, les gens se sont donné rendez-vous pour plancher sur la question qui désoriente ou qui rétrograde tous les pays. Et c'est au Togo également que des orientations ont été données pour que les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, on puisse trouver les voies et les mécanismes idoines pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Vous savez, les terroristes, tout le monde sait ce qu'ils pensent. Vous avez dit tout à l'heure que le Togo, par rapport à Djakouti, que les Togolais ne sont pas méchants, mais qu'il y a des gens qui nous provoquent.
Des gens méchants viennent,
qui viennent nous provoquer. Les terroristes ne veulent pas que les gens soient en quiétude. Les terroristes ne veulent pas que nous ayons la paix, que nous soyons heureux, que nous soyons contents. Rappelez-vous que lors de la Tabaski, ils avaient essayé, ils ont frappé méchamment dans le nord du Togo. Le jour de bonne année, ils sont encore revenus pour donner la tristesse. Et j'avoue que c'est de bonne guerre que les gens essayent de se retrouver et chercher les solutions. Et ce qui a été dit la dernière fois, c'est de faire en sorte que tous les pays d'Afrique essayent d'abriter de ces rencontres et de mettre au profit la jeunesse. Parce que la jeunesse peut jouer la délation, elle peut aider. Il a été encouragé à tous les gouvernements de faire à ce que les moyens nécessaires soient mis sur les renseignements, sur toutes les orientations qu'il faut pour pouvoir éradiquer ou freiner définitivement cela. Et je salue la tenue de cette rencontre. Et j'avoue que à partir de ces rencontres-là, si les gens mettent au sérieux tout ce qui se dit et se donnent pour engagement de faire en sorte qu'on lutte et qu'on combatte efficacement ces méchants, comme nous l'avons dit, nous allons nous en sortir et nos pays auront à gagner et ils connaîtront le réel développement que les populations attendent d'eux.
Merci. Alors, quelques-unes des recommandations ici de la conférence, je les cite comme ça, pêle-mêle. La conférence demande aux États de transcender les frontières pour que la lutte soit vraiment commune et cohérente et de mobiliser, de déployer des ressources financières aussi bien au niveau des États que au niveau des partenariats inter-États, d'adopter des lois prenant en compte les aspirations des jeunes, de renforcer la législation en matière de lutte contre le terrorisme, de créer de plus en plus d'emplois à l'intention des jeunes, surtout en milieu rural, et également d'instaurer un climat de confiance entre les jeunes et les forces de défense et de sécurité de mettre en commun des ressources financières au niveau national et entre États. Et la conférence qui a également recommandé la mise sur pied d'un comité de suivi pour que ces recommandations ne demeurent pas simplement lettre morte. Jacques, il faut rappeler que la conférence de Lomé faisait suite à la rencontre à laquelle l'Assemblée nationale a participé en mars 2022 à Doha. Il s'était agi de la conférence parlementaire de haut niveau dont le thème était « Comprendre la menace terroriste en Afrique ». Donc c'est le suivi de Doha qui s'est fait chez nous ici. On peut quand même constater que le Togo est le prolongement de cette rencontre de Doha. Et à Lomé, on a vu également une délégation justement de la Chourak, c'est comme ça qu'on l'appelle,
oui.
de Doha qui était là, Jacques.
Oui, vous savez, Sas, il faut reconnaître que par rapport à ces rencontres-là, c'est une très bonne chose parce que ça permet à ce qu'on puisse effectivement se rappeler de ce qui se passe dans chaque pays et que chacun nous dise l'expérience qu'il vit avec, par exemple, ce terrorisme. J'ai suivi l'une des recommandations où on parlait, par exemple, des frontières. Vous savez, aujourd'hui, il est difficile, par exemple, qu'un terroriste qui rentre, par exemple, au Togo, que l'armée togolaise puisse poursuivre ce terroriste-là vers les frontières du Burkina. Le Togo, avant d'opérer, a besoin de demander d'abord l'autorisation. Mm-hmm. Alors que les gens sont là, sont venus, ils ont commis leur forfait, ils se sont repliés de l'autre côté. Je crois qu'il faudrait que cette hypocrisie-là soit levée. Parce que si aujourd'hui, on lève cette hypocrisie, on vous dit... Lorsque quelqu'un attaque, par exemple, le Togo et que le Togo rentre sur le sol burkinabé, je vous dis que ces terroristes-là ne vont plus jamais revenir.
Je crois justement qu'entre le Togo et le Burkina, il y a un accord signé. dans ce sens. Chaque pays peut aller jusqu'à une quarantaine de kilomètres dans le pays voisin voilà. à la poursuite justement de ces terroristes.
Voilà, en parlant toujours des frontières, prenez par exemple la frontière entre le Mali et le Burkina. Je vous dis que s'il y avait cette coopération, ces terroristes-là, je vous dis, on arrivait depuis là à les vaincre. Mais l'hypocrisie, c'est que quand les autres viennent attaquer, ils vont se réfugier dans d'autres pays. Et finalement, c'est les mêmes qui reviennent tout le temps. Mm-hmm. Les femmes qu'on avait enlevées la fois passée au Burkina, c'est vrai.
Et qu'on a retrouvées, Dieu merci.
Mais c'est grâce à la coopération entre les renseignements du Mali
et du Burkina
qui ont finalement permis à ce qu'on puisse retrouver les femmes. Donc je crois qu'au cours de ces rencontres, il faudrait qu'on insiste surtout sur la sincérité de ces recommandations qu'on essaie de prendre tout le temps au cours de ces rencontres. C'est vrai de prendre des recommandations. C'est une bonne chose également de prendre les recommandations. Mais si on n'applique pas, par exemple, ces recommandations SAS, je vous dis, à la prochaine rencontre, c'est les mêmes recommandations qui vont encore revenir et on serait là en train de tuer les peuples. J'ai suivi, par exemple, un panéliste du Mali qui disait, ils sont dans cette salle, mais certains sont en train de mourir encore au Mali. Au moment où ils sont en train de parler, les gens sont en train de mourir. Donc je crois qu'il est urgent aujourd'hui que les chefs d'État, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, il est obligé que l'Afrique s'entende. Si on ne s'entend pas, je vous dis, le Togo serait dans son coin en train de faire ses efforts, mais les autres qui sont de l'autre côté, ils viendront toujours attaquer le Togo. Mm-hmm. Tant qu'il n'y a pas une mutualisation des forces pour pouvoir attaquer le mal, je vous dis, chacun sera dans son coin en train de faire des efforts, mais je vous dis, ça sera englouti parce que, vous savez, c'est nébuleuse. Hein? C'est comme si un mal qui est là, vous coupez ici, demain, il réapparaît de l'autre côté. Et prenez l'historique même de ce terrorisme-là, SAS. Vous savez, avant, c'était quoi? Avant, ils posaient des bombes. Ils ont quitté le fait de poser des bombes. Après, on nous a dit non, qu'ils rentrent dans les bus avec les ceintures. Mm-hmm. Ils ont quitté, ils se sont encore métaphorisés pour aller dans quoi? On dit maintenant, on essaie de kidnapper des gens. Après, finalement, on dit, on attaque les pays. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que c'est des gens, dès que vous attaquez vous arrivez à maîtriser ce côté, ils se mutualisent vers l'autre côté. Donc, il faudrait aujourd'hui que les États également pénètrent ces réseaux pour voir ce qui se passe réellement. C'est vrai que la force, c'est une très bonne chose, mais il faut qu'aujourd'hui, la mutualisation au niveau des renseignements, que ce soit le Togo, que ce soit le Ghana, que ce soit le Burkina, que ce soit le Bénin, l'Union africaine, la CEDEAO, il faut vraiment mutualiser effectivement les renseignements. Les rencontres, ça, je vous dis, c'est une très bonne chose. La rencontre de la fois dernière ici à Lomé, vu ce qui s'est... Je n'ai pas assisté, mais j'ai suivi un peu sur YouTube. les recommandations, les communications, surtout la communication du président de l'Assemblée nationale du Niger. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez suivi.
Il a
dit quelque chose de très important. Il dit, si nous voulons vaincre aujourd'hui ce mal, il faut que les États se penchent effectivement sur la réinsertion des jeunes. Il a dit, il faut que les jeunes soient occupés. Tant que ces jeunes-là ne seront pas occupés, je vous dis ça, nous ferons tout le temps de faire des recommandations.
Justement, Jacques, la particularité de l'accord de Lomé, c'est que les jeunes figurent en bonne place, justement, les parlementaires qui en appellent à l'engagement des jeunes en Afrique, et les parlementaires tracent quelques pistes, notamment l'adoption des lois prenant en compte les aspirations des jeunes. Je rappelle encore le renforcement de la législation en matière de lutte contre le terrorisme, création d'emplois aux jeunes, ouais, surtout ceux qui sont en milieu rural, et instauration d'un climat de confiance entre les jeunes et les forces de défense de sécurité. Et je rappelle que un certain nombre d'associations du Togo ou des pays voisins ont participé à la conférence, certains en présentiel, d'autres par la technologie. Voilà un élément essentiel.
Vous savez, ce en quoi je voulais par exemple revenir, il a dit, essayons de jeter un peu un regard sur les attaques un peu de ces djihadistes, de ces terroristes-là. Vous allez voir toujours que c'est le ventre mou, c'est-à-dire des pays, c'est-à-dire que c'est le Nord toujours qui est attaqué.
Les régions défavorisées, les plus pauvres.
Qui sont toujours attaquées. Donc il faudrait aujourd'hui que les chefs d'État au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine, se penchent sur le phénomène. Pourquoi c'est tout le temps le Nord qui est attaqué? Si le Nord qui est attaqué...
Le Nord du Togo, mais le Burkina dirait que c'est son sud ou bien son ouest ou bien son est.
Oui, non, mais la plupart, jetez un coup d'œil, vous allez voir que souvent, c'est le ventre mou de ces pays-là qui sont attaqués, le Nord. C'est pour vous dire qu'il y a un sous-développement au niveau de ces localités.
Oui.
Donc, moi, je crois qu'à la prochaine rencontre, par exemple, on n'a pas besoin de faire venir peut-être la CEDEAO, de faire venir l'Union africaine, mais au niveau de l'Assemblée nationale du Togo, il faudrait qu'il y ait cette réflexion. Il a dit, pourquoi ces djihadistes-là sont arrivés à pénétrer vers le Nord? Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'Assemblée nationale
du Togo?
Essayez de rassembler, par exemple, les partenaires économiques dans ce pays. Créer un forum, c'est-à-dire qu'un forum au niveau effectivement national pour demander l'assistance, parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. On sait que c'est un peu difficile avec la situation économique un peu dans le monde. Il faudrait qu'un forum soit organisé par l'Assemblée nationale togolaise sur les opérateurs économiques du Togo, voir quel sera leur apport, voir quelle sera leur contribution. Aujourd'hui, vous savez, j'étais un peu attristé, je sais qu'il n'y a pas ce sujet, j'étais un peu attristé de voir, lors de la rencontre des paysans au nord, j'ai vu dans les savanes, j'ai vu une femme qui était devant le chef de l'État, qui était en train de dégrainer les chapelets, et dit, monsieur le président, nous avons besoin des forages, monsieur le président, nous avons besoin des barrages, monsieur le président, nous avons besoin des entrants par rapport à l'agriculture. Mm-hmm. Donc, c'est pour vous dire que c'est un besoin récurrent. Donc, il faudrait aujourd'hui que l'Assemblée nationale puisse organiser, par exemple, ce forum économique.
Je pense qu'il faut saluer le courage de cette femme qui s'est présentée devant le président de la République
pour lui égrener
le chapelet des préoccupations de la région. Également féliciter le chef de l'État pour sa patience d'accepter que la dame vienne à lui et qu'il puisse l'écouter de vive voix. Et s'il a écouté la dame, tel que je le présume, il ne va pas dormir sur les lauriers. Il va donner des instructions pour que les solutions
soient
apportées. Et puis, également, cela rejoint le programme d'urgence spéciale que le gouvernement a déjà déclenché vers la région des savanes. C'est dire que c'est une bonne chose, mais c'est à renforcer davantage. Alors, comme disait Jacques, en prenant acte de la tenue de la conférence à Lomé, de la grande part que Mme Tchégan et ses camarades ont prise dans cette conférence. Et la conférence a dit qu'un comité de suivi sera mis sur place. Mais Jacques demande à l'Assemblée togolaise de poser prochainement un acte encore plus fort, FORT, dans le sens de la réaffirmation de leur engagement dans cette lutte.
Non, je crois que avant tout, il faut reconnaître que s'il n'y avait pas la volonté de chercher à solutionner ou de chercher à trouver les voies, les moyens pour lutter efficacement contre le terrorisme, il n'y aurait pas eu cette rencontre. La rencontre, elle a été initiée pour que les uns et les autres apportent leur savoir ou leur pensée pour solutionner ce qui embête le monde entier. Et aujourd'hui, il a été fait constat que ce sont les jeunes qui sont des djihadistes. Vous n'aurez pas un vieux rempart qui ne peut pas se déplacer, qui irait jouer ce rôle de commando. Parce que les terroristes, avant tout, c'est des gens conformes, c'est des gens qui savent courir, c'est des gens qui sont très habiles, c'est des gens qui ont tous les sens à jour. Donc, c'est des jeunes.
C'est les jeunes que les djihadistes enrôlent dans leur rang. Et c'est également des jeunes dont ils se servent comme élément de renseignement pour se tenir au courant des agissements des États ici ou là.
Tout à fait. Et donc, il faut encourager d'ailleurs qu'au Togo, les gens puissent enrôler au maximum les jeunes qui ont la volonté d'intégrer l'armée, la police ou la gendarmerie vers le nord du pays. Parce que si vous ne les prenez pas, les voyous viendront le prendre. Ça, il faut le savoir. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'être enrôlés comme militaires, gendarmes, tout. Donc, au maximum, il faut les prendre. Parce que quand vous ne les prenez pas, les voyous viendront, ils vont aller chez eux. Donc, ça, c'est une piste. Comme le dit Jacques, il faut faire l'essentiel pour que une bonne partie des jeunes soient engagés. Vous avez des concours tout le temps où les gens vont et reviennent et ils se résument à faire Zemidjan. Donc, quand on leur propose d'aller de l'autre côté avec des situations alléchantes qu'ils n'ont pas vécues, ils y vont. Je sais que le Togo marque cette volonté-là. Et c'est pour ça qu'il faut reconnaître ce que Djakouti vient de dire. Fort Gnassingbé, je pense humblement qu'il a envie de savoir les aspirations profondes du profond peuple. C'est pour ça que chaque fois qu'il va dans une préfecture, à la fin de l'exercice de ce qu'il est allé faire, il fait toujours économie de réserver 2 heures pour écouter les jeunes. Et c'est à l'occasion que la femme qui égrenait le chapelet, dont Djakouti fait cas, a pu avoir la possibilité de dire directement au président ce qui est préoccupation dans son milieu. Vous savez, hier, il y avait de ses collaborateurs qui mentent, qui ne disent pas la vérité au premier de nous tous. Vous avez, j'ai compris par le passé, qu'il y a des routes qui devraient être goudronnées, qu'on n'a jamais goudronnées.
Si, qu'on a goudronnées sur le papier.
Sur le papier. Et quand le président de la République veut venir, on fait tout ce qu'il faut accommoder, tout ce qu'il faut faire pour paraître. Vous voyez, donc il y a eu de ces événements-là. Mais aujourd'hui, avec Fort, surtout qui accepte d'aller écouter directement les populations, on a la chance qu'ils puissent entendre les vrais volonté, les vrais vœux de nos profondeurs, et avec lui directement, je me dis que quand un chef d'État s'engage à aller ou à faire quelque chose, c'est comme une parole biblique pour le pays concerné. Et donc, tout ce qui se dit, et que Fort Gnassingbé c'est capable de pouvoir faire, moi je me dis qu'il va le faire, et c'est ce qu'il faut faire par rapport à nos jeunes. Il faut trouver toujours des mécanismes pour absorber ces jeunes-là, pour éviter que les autres viennent les chercher. Et je réinsiste en disant que pour les recrutements militaires, police, gendarmes, il faut faire le maximum dans les zones concernées parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent se faire enrôler, que parfois on ne prend pas avec les mesures qu'on dit que bon, il y a des quotas par préfecture, tout. Il faut faire le maximum si c'est possible parce que si vous les laissez, les voyous viendront les prendre.
L'enrôlement des jeunes dans les forces de sécurité, mais il y a d'autres emplois civils aussi qui ont besoin de ces bras, des jeunes filles, jeunes garçons de la région pour que ce soit vraiment inclusif. Et parlant des jeunes, je me rappelle tout le malaise que le général Yak a exprimé il y a quelque temps parlant du trafic du carburant illicite quand le général quand le ministre de la Sécurité reconnaissait que la lutte là est vraiment difficile et que des jeunes du Togo et même de la région des savanes alimentaient peut-être sans le savoir les réseaux terroristes en leur fournissant le carburant qui sert aux terroristes de revenir nous créer des ennuis. Le chantier est vaste. Je retiens ce que Jacques a dit. Peut-être que avec cette grande conférence de Madame Tchégan, peut-être que d'ici la rentrée, l'ouverture de la prochaine session parlementaire début avril, peut-être que les députés nous réserveraient une surprise qui montre encore leur engagement à se porter aux côtés de l'exécutif.
Oui, ça, vous avez dit que vous avez dit quelque chose de très important. Oui. Je voudrais vraiment féliciter le ministre de la Sécurité pour son courage. Il a dit que ce qu'il a dit là, dans un passé récent, on ne pouvait pas le dire. Mais il a eu le courage de le dire que finalement, il a compris que ce sont ses frères. Donc il faudrait que les gens prennent conscience de ce qui se passe réellement. C'est pourquoi je reviens toujours pour féliciter la dame là dans les savanes. Vous savez pourquoi ça?
Non,
elle a été courageuse. Elle a dit aujourd'hui, je me rappelle qu'au cours d'une autre rencontre, je crois que c'était le PNIAZA qui avait organisé encore quelque chose comme ça dans les régions. Vous vous rappelez? Et au cours de ces rencontres, les mêmes sujets revenaient. C'est pourquoi je suis d'accord avec Arim Yao pour dire que le fait que le chef de l'État soit là lui-même pour écouter les doléances de ces populations, il faudrait demain, s'il y a une autre conférence, que les dames-là ne reviennent plus pour égrener encore
les mêmes choses.
Parce que un forage sas, un barrage, pour occuper par exemple ces jeunes, dont le ministre partout a fait une déclaration pour dire que ce sont ces jeunes-là qui alimentent par exemple ces réseaux de djihadistes et de terroristes. Ça, je ne peux pas comprendre quand vous prenez tout, par exemple tout le Nord, qu'on dise que c'est le Burkina qui fournit le Togo de l'oignon, que c'est le Burkina qui fournit le Togo des pastèques et autres. Quand vous prenez cette région-là, si on crée aujourd'hui, par exemple, les barrages et les forages où les gens peuvent arroser leurs champs, je ne pense pas que quelqu'un puisse aller encore quelque part pour dire que l'huile va alimenter le carburant et autres. Donc il faudrait aujourd'hui, comme je dis ça, il faudrait que ce que cette dame a dit, que l'année prochaine, quand le chef de l'État va retourner encore à Dapaon, qu'on ne puisse plus encore égrener les mêmes chapelets de revendications.
Merci. J'ai quelque chose à ajouter. Ouais, peut-être que les gens vont me trouver bizarre.
Dites toujours.
Oui, mais je vais le dire. Par rapport aux jeunes, je crois qu'il y a le chômage dans tous les pays du monde. Et aujourd'hui, il ne faut pas que nous perdons de vue que tous les peuples, tous les pays sont en compétition. Je voudrais humblement dire que nous sommes au Togo, nous nous connaissons. Depuis le sommet jusqu'au bas, on se connaît. Et je dis dans chaque région, dans chaque préfecture, il y a des gens qui peuvent donner sur place de l'emploi. Nous avons tout le temps crié qu'il y a des gens nantis, qu'il y a des gens que Dieu a oint, que ces gens-là essayent de mettre au devant le social pour accompagner le gouvernement. Vous savez, le gouvernement ne fait rien sans prévision. On vous dira que le budget nous permet de faire ceci. Le budget fait ceci. Et on ne peut pas le faire quand il n'y a pas des entrées. Mais quand on va chez toi, Rahoteux, il y aura des gens qui ont problème d'eau. Mais il y a des gens, Rahoteux, qui ont la possibilité de créer aussi pour accompagner dans le privé le gouvernement. Pour faire des forages, pour accompagner le gouvernement. Que les gens marquent leur volonté parce que nous nous connaissons. Je répète encore qu'on se connaît. Les gens savent ceux qui ont la possibilité d'implanter au moins 10 forages dans leur localité et qui ne le font pas. Qui ont la possibilité de créer des emplois et qui ne le font pas. Qu'ils comprennent que l'heure est à unifier ou à mettre les énergies sur place pour accompagner ce Togo que nous aimons et lutter efficacement contre le terrorisme et le djihadisme. Parce que quand ça va arriver, l'argent qu'on a thésaurisé, l'argent qu'on a placé en Europe, l'argent qu'on cache, l'argent qu'on ne donne à personne, quand ça va devenir amer, on ne peut l'utiliser ni pour ses enfants, ni pour soi-même. Autant.
Est-ce qu'on sera même là?
Ah, voilà. Okay. Donc, autant travailler à mettre ça au profit pour que les jeunes trouvent de l'emploi, même dans le privé. Il n'y a pas que l'État qui peut consommer les jeunes Togolais. Il y a des gens au Togo qui sont capables de créer des structures pour
accompagner. Peut-être que les jeunes de Dapaon, d'ailleurs, peuvent également exceller dans les différentes pratiques sportives, encore qu'ils soient en bonne santé. Cela nous amène au sujet suivant. médecine du sport, un plan stratégique validé par les acteurs. C'est le journal Benga Info qui nous en parle, à savoir que ce document a été validé le jeudi dernier à l'issue d'une rencontre de deux jours ouverte le 18 janvier par la ministre des Sports et des Loisirs, Dame Lydie Bessie-Kama. Ce document, selon Mega Info, matérialise la volonté du gouvernement de faire du sous-secteur de la médecine du sport un maillon essentiel dans la concrétisation de l'ambitieux chantier de la renaissance sportive. Cher ami ou ennemi, Alba, rebonjour.
Rebonjour, Sass.
Conseiller en communication au ministère des Sports et des Loisirs, veux-tu nous dire d'abord ce qui a amené le ministère des Sports à réfléchir à un tel plan stratégique?
Voilà, vous savez, le ministère des Sports a pour mission, entre autres, d'aider au développement des différentes disciplines qui se pratiquent dans notre pays. Et vous savez que nous avons beaucoup de talents en Afrique de façon générale. Mm-hmm. Nous avons beaucoup de talents dans toutes les disciplines. Et nos talents ont également de la technique. Mais il est question de compétition en matière de sport. Mm-hmm. Et quand on va à une compétition, on cherche à gagner. On cherche à avoir les meilleures positions, les meilleurs prix. Mais nous constatons que nous n'avons pas toujours les bonnes performances. Mmh. Et cela est quelque part dû à notre capacité à résister, à notre capacité...
En partie à nos capacités, enfin, au problème de santé de nos athlètes, de nos sportifs.
Tout à fait. Mmh. Donc voilà pourquoi le ministère des Sports s'est engagé sur cette voie-là, de se doter d'un plan stratégique qui nous montre la voie à suivre pour le développement de la médecine du sport dans notre pays. Je rappelle que cette volonté du gouvernement s'est manifestée depuis 2018 par la création de la direction de la médecine du sport et du contrôle du dopage. Et c'est en cette année que, je veux dire 2022, que le directeur ayant pris donc fonction, il était important qu'il puisse avoir un outil qui sera pour lui comme, comme une boussole pour savoir comment travailler avec les différents acteurs impliqués, mm-hmm. afin qu'on puisse maintenant aider nos athlètes à avoir de meilleures performances en jouant sur le volet santé. Et quand on parle de santé, je pense que le docteur ira beaucoup plus dans les
il
détails.
Il est là à nos côtés. C'est justement pour ce que tu disais tantôt, le confrère Mega Info donne un peu la parole à la ministre à l'ouverture des travaux quand elle disait, je cite, « Pour des performances de haut niveau, il nous faut des sportifs indemnes de maladies qui ne se blessent pas à tout va et s'ils se blessent, qu'ils puissent bénéficier des soins de qualité au même rythme que leurs concurrents et se remettre rapidement et efficacement dans le sens de la compétition. » Voilà ce que la ministre nous rappelait. Mais encore un petit mot et demi, quelles sont les parties prenantes à l'atelier qui a accouché de ce plan?
Alors, mercredi et jeudi dernier, il y a eu beaucoup d'acteurs qui étaient là. Nous avions l'Ordre national des médecins du Togo. Nous avions eu l'association des kinésithérapeutes, nous avons eu les membres des staffs médicaux des différentes équipes ou des différents clubs. Il y avait également les psychologues et puis d'autres acteurs du monde sportif. Je vais parler des DTN, je vais parler des DTN des différentes fédérations sportives.
Donc c'est-à-dire que les différentes fédérations sportives ont été activement impliqués à l'atelier.
Tout à fait. Sur les deux jours, le Comité national olympique, il y avait l'Institut national de la jeunesse et des sports, et tout le centre, voilà, le CRA, le centre régional d'athlétisme de Lomé, mm-hmm. et le centre de développement de sport de Palimé, et enfin beaucoup d'acteurs qui sont concernés par le sujet étaient là.
C'est-à-dire que l'atelier a été vraiment inclusif. Et quelqu'un n'est pas de rendre de dire que j'ai été écarté, moi.
Non, vous savez que quand on fait quelque chose pour quelqu'un et qu'il n'est pas là, même si c'est bon, parfois c'est comme ce n'est pas bon.
Ouais, donc tous les acteurs. Ça me rappelle en fait, des propos attribués à Mandela, que ce qui se fait sans moi, souvent peut être perçu comme se faisant contre moi.
Tout à fait, voilà.
Eh bien, docteur Pata Cedro, rebonjour.
Bonjour, Sass.
Vous êtes le directeur de la médecine des sports et du contrôle du dopage, je présume. Que vous avez été vraiment présent au cours de l'atelier.
Oui, à toutes les phases. Mm-hmm.
à la phase de conception, à la phase de rédaction du...
Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît?
Voilà, à la phase de conception, à la phase de rédaction du premier, du draft zéro, à la phase d'organisation de la télé. J'étais là.
Très bien. Alors, voulez-vous nous relever les axes majeurs de ce plan?
Les axes, bon, nous avons le plan à trois axes. Il y a en premier lieu le renforcement des capacités de prise en charge des sportifs. Ensuite, il y a le renforcement des capacités infrastructurelles, matérielles et humaines dans le monde du sport. Et il y a le renforcement de la gouvernance du sport elle-même. Voilà, c'est trois axes stratégiques qui ont été développés.
Eh bien, les plans, le plan a été adopté avec les axes majeurs que vous soulignez. Maintenant, qu'en sera-t-il de sa mise en œuvre effective, docteur?
Oui, la mise en œuvre, ça va suivre. Et comme l'a dit tout à l'heure le conseiller en communication, toutes les parties prenantes sont invitées dans la mise en œuvre. Toutes les parties prenantes seront impliquées. Ça va concerner tout le monde. La mise en œuvre s'étend parce qu'il y a là des actions qui sont amenées par le ministère, des actions qui sont amenées par la fédération. Et donc voilà, il était important que tout le monde soit là. Tout le monde était là. C'est dans un climat de convivialité, qu'on a travaillé avec beaucoup de sérieux. Et je salue là les participants qui étaient vraiment, vraiment, vraiment pointus sur l'analyse de ce document.
Nous parlions tantôt de la performance de nos athlètes, lesquels athlètes peuvent être tentés par le dopage. Or, vous êtes justement le directeur de la médecine des sports et du contrôle du dopage. Je présume que la question du dopage a été également au menu de vos entretiens.
Oui, bon, avant de parler du dopage, nous oublions tout à l'heure, il y avait des athlètes qui étaient à l'atelier. D'accord? Il y avait des athlètes qui étaient invités aussi. Il n'y a pas que les directeurs techniques, les staff médicaux.
Il y avait les sportifs eux-mêmes.
Il y avait des sportifs qui étaient invités. Bon, on ne pouvait pas inviter tout le monde, donc on a invité quelques sportifs d'ici et là. Bon, revenant au dopage, la question du dopage est prise en compte dans notre plan stratégique, donc qui est le plan stratégique de lutte contre le dopage, qui est arrivé à terme l'année dernière, 2022, et va être renouvelé. Et cette année, on est à pied d'œuvre pour ça. Donc, on ne pouvait pas faire deux plans stratégiques qui se chevauchent. Donc, voilà. Donc, à cet atelier, il n'y avait pas été question particulièrement du dopage.
Alors, revenons sur le plan stratégique. Alors, à vous, docteur Pata, ou bien notre ami Wenmi Alba. Alors, à ce jour, est-ce que toutes les fédérations sportives disposent d'un staff médical en leur sein? Si oui, c'est bien. Sinon, qu'est-ce qui est fait pour que chaque fédération puisse en disposer prochainement? Wenbi?
Oui, bon, je pense que pour l'instant, chaque fédération essaye, dans la mesure du possible, avec les moyens dont il dispose, d'avoir un staff qui l'accompagne, côté médical. Mais ce n'est pas toujours comme cela devrait être. Peut-être aussi parce que les compétences recherchées, parce que par exemple les médecins du sport, on en a passé dans notre pays. Maintenant, il faut à travers ce plan créer les conditions pour susciter de l'intérêt au niveau du corps médical généraliste qui pourrait donc se spécialiser, se mettre à la disposition de nos fédérations. Donc en gros, pour dire que pour l'instant, ce n'est pas vraiment ça. Et voilà justement l'une des raisons pour lesquelles il est important que ce plan stratégique puisse être mis en œuvre et que chaque acteur puisse jouer sa partition afin que nous puissions corriger ce volet médical qui va donc agir positivement sur la performance.
C'est une question qui vous interpelle, docteur Kouata.
Oui.
Oui, alors.
Oui, qu'est-ce qui est fait? C'est ce que vient de dire le conseil.
Ce qui est fait, nous le savons déjà, pas beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qui va être fait pour que votre plan stratégique puisse vraiment être implémenté au sein des fédérations?
Voilà, c'est mis dans les documents. On va essayer de créer les conditions pour que nos confrères, médecins, kinés, psychologues, puissent trouver un intérêt à se spécialiser dans le domaine et pour pouvoir travailler avec les différentes fédérations. Parce que c'est un travail d'équipe, c'est pas que le médecin. Donc on va essayer de voir. Parce que la ressource humaine, il n'y a pas. Quand il n'y a pas de ressources humaines spécialisées, on ne peut pas prétendre que les fédérations puissent avoir du personnel spécialisé. Bon, maintenant, même le personnel qualifié non encore spécialisé, c'est vrai que toutes les fédérations n'y sont pas encore, mais progressivement, ça va aller. On va créer le mécanisme qui va les inciter progressivement à y arriver.
J'aurais aimé avoir la ministre en personne, mais elle n'est pas encore là. Hein? Mais en attendant, c'est toi, Wenmi, Walba. Il semble que c'est une dame de volonté. Hein? Elle sait là où elle veut aller, avec quels moyens. Alors, est-ce que t'as un peu confié comment elle veut donner corps à ce plan stratégique de la ministre des Sports?
Non, ben, je pense que si vous parcourez le document, vous vous rendrez compte qu'en réalité, avant même de répondre, j'étais sur une radio, on me demandait est-ce que c'est le ministère qui va former les médecins et puis les mettre à la disposition des fédérations. Mm-hmm. En fait, ce n'est pas ça. Il s'agit, pour le ministère principalement, de créer les conditions, d'inciter les différents acteurs impliqués à trouver un intérêt, à faire ce qu'il faut faire. Mm-hmm. Parce que ce plan stratégique, c'est un peu comme un document, c'est un peu comme on fait un voyage et maintenant on se dit on va arriver à tel niveau, quels sont les moyens dont nous aurons besoin pour y arriver. Mm-hmm. C'est ce que nous avons dit dans le plan stratégique. Maintenant, il est question de mobiliser les ressources, hein, aussi bien matérielles, humaines et financières, pour la mise en œuvre. Et cette mobilisation, c'est chaque acteur qui apportera sa pierre pour qu'on y arrive. Et je crois que la volonté des uns et des autres va contribuer à ce que nous puissions y arriver. Ça va de l'intérêt du sport national et donc de tous les Togolais.
Oui, toutes Jacques, les un commentaire ou une question?
Non, je crois que vous avez tout dit. Je crois que la ministre se bat. Mais ils ont bien fait de reconnaître que pour le moment, ce n'est pas toutes les fédérations. Parce que c'est vrai que depuis un certain temps, nous voyons un peu une voix dissonante par rapport à une fédération concernant votre ministre. Et il faudrait aujourd'hui que si nous voulons aller ensemble, il faut que nous puissions nous entendre. Parce que aujourd'hui, s'il y a une fédération qui est là, qui ne s'entend pas avec... le ministre, et l'autre aspect au niveau de la formation effectivement de ce médecin, je crois qu'il urge de le faire, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas admettre que on puisse avoir par exemple un club et que ce club là qui joue, qui ne dispose pas d'un kiné, qui ne dispose pas d'un médecin, c'est quand même un peu c'est pas du tout bien. J'ai assisté à un match un jour où il y avait un blessé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait chercher un médecin du quartier. On dit que le médecin du quartier, il allait aux funérailles. Donc il faudrait transporter ce pauvre qui est blessé d'un village à un autre point. Ça, finalement, ça crée vraiment de problèmes. Je voudrais encourager effectivement le ministre à organiser effectivement ce secteur-là pour que chaque fédération puisse disposer d'un médecin. Parce que nous savons que dans nos préfectures, nous savons que dans nos régions, il y a quand même les médecins. S'il n'y en a pas, il faut pouvoir. Parce qu'il faut développer le football. Si on veut que notre football se développe, il faut également que cela passe par là également.
Oui, l'ami Wenba, plutôt Wenmi Halba, à l'endroit de ce que Jacques a dit.
Oui, je voudrais remercier le doyen Jacques, que je suis souvent, donc c'est la première fois de le voir en face.
Mais c'est si pourquoi il faut venir souvent au club de la presse et tu vas rencontrer les confrères, l'ami. Sortir un peu de temps en temps de vos bureaux là.
Donc, je crois qu'il a dit l'essentiel. Nous continuerons pas à travailler. Et c'est, vous savez, le monde du sport, c'est un monde où vous travaillez pour... Enfin, ce sont des actions conjuguées qui mènent à un résultat. Il ne s'agit pas d'une action isolée qui pourrait arriver à un quelconque résultat. Voilà pourquoi nous essayons, dans la mesure où nous pouvons, de rassembler tous les acteurs autour de ce que nous faisons. Et je pense que le secteur de sport, ou bien le ministère de sport, n'agit pas directement sur le terrain de façon générale, c'est à travers les fédérations. C'est pour ça que nous les associons aux différentes activités, aux différentes actions. Et ça va s'amplifier, ça va continuer. Et pour ce qui concerne ce plan stratégique, on va ensemble donc arriver à corriger les petits défauts qu'il y a au niveau des équipes, au niveau des fédérations. Et vous savez qu'il y a un projet de professionnalisation des sports, en commençant par le football. Et tout cela mis ensemble, en fait, c'est un objectif qui est recherché. Hein, in fine, si tous les pas qui se posent, toutes les fondations qui se posent sont bien solides, notre sport, de façon générale, a de beaux jours.
Et ainsi, nous pourrons avoir des sportifs indemnes de maladies qui ne se blessent pas à tout va, et s'ils se blessent, qu'ils puissent bénéficier de soins de qualité au même titre que leurs concurrents et se remettre rapidement et efficacement dans le sens de la compétition. Docteur, il y a un auditeur qui nous dit que le premier facteur de la bonne santé du sportif, c'est son alimentation.
Bien sûr.
Là, nous sommes d'accord.
Bien sûr. Bon, l'alimentation, l'aliment, c'est notre premier médicament. C'est le premier médicament de l'homme. Donc, de plus, un sportif, il doit savoir quoi manger, quand manger, comment manger et tout. Donc, l'alimentation, ça, c'est important. Voilà pourquoi je parlais de médecins du sport, pour dire c'est une équipe. Hein. Mm-hmm. Médecins du sport, c'est une équipe pluridisciplinaire où il y a le médecin du sport, le kinésithérapeute du sport, le psychologue du sport, le nutritionniste du sport, même le préparateur physique et d'autres corps encore. Parce que, imaginez, quand il se blesse, il faut un chirurgien, traumatologue ou orthopédiste s'il doit être opéré. Donc, pour pouvoir l'opérer et qu'on puisse avoir un bon résultat. Donc, c'est tout un ensemble. Maintenant, il y a ceux qui sont au chevet tous les jours et il y a ceux qui seront sollicités. Comme le traumatologue, bien entendu, comme je viens de le dire. Donc, voilà.
Eh bien, nous avons à présent un plan stratégique qui a été validé. Dans les mois à venir, nous allons voir comment chacun va décliner, disons, ce plan au niveau du ministère, au niveau des fédérations, au niveau des clubs, depuis Lomé Iski jusque dans nos villages, et notamment à Kwewa. Et on verra que les footballeurs de Kwewa ne vont pas prendre du coco avec Kouklou le matin et Wacheya midi le soir pour prétendre aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations.
Non, je crois qu'il faut saluer tout ce qui a été fait par rapport à ce plan et dire que, avant tout, c'est une volonté manifeste pour que le sport togolais gagne. Je veux dire ici que tout ce qui se fait par rapport à ce plan, le docteur et le conseiller en communication ont dit que le ministère lui-même n'agit pas directement, mais c'est à travers les fédérations. Je voudrais que Madame le ministre, qui travaille pour que les victoires soient de mise dans le sport du Togo, travaille encore par rapport à ce que Jacques Diakouti a dit. Parce que on ne peut pas gagner quand on est dans une équipe, quand il n'y a pas une synergie entre tous les acteurs. De la même façon, on ne peut pas réussir un plan de cette envergure quand tous les acteurs ne sont pas en synergie. Je sais que Madame la ministre, c'est une maman, c'est une dame. Elle aura les moyens nécessaires pour faire à ce que toutes les fédérations se mettent en synergie pour accompagner ce plan que nous saluons en passant.
Merci,
pour que
merci Ali Miaou. Nous avons déjà pris 4 à 5 minutes sur le temps des auditeurs. Ils voudront bien nous en excuser. À présent, nous nous montrons disciplinés. Un petit clin d'œil à nos partenaires, puis nous renouons avec les auditeurs. 93.5. Canal FM. Oui, nous sommes ici au studio. Nous ouvrons à présent les deux numéros que vous connaissez déjà. Le 22-21-33-74, le 91-36-63-75. Vous co-animez avec nous sur les deux sujets dont nous avons débattu prioritairement, à savoir la conférence que les parlementaires ont tenue à Lomé et puis le plan stratégique dont le monde de du sport togolais vient de se doter. Premier auditeur déjà en ligne, bonjour.
Et bonjour mon grand frère Dao, oui. Bonjour le plateau.
Oui.
Je me nomme Benoît, je vous appelle Dagouet.
Benoît Dagouet.
Oui, mon
voilà,
frère.
Je m'en doutais bien avec le ton de votre voix.
Merci. Bon, moi, vous avez parlé de la rencontre entre le chef de l'État et les paysans. Bon, moi, j'aimerais dire, le chef de l'État est un président. C'est ce que vous avez dit que la dame a le chapelet dans la dame a parlé au chef de l'État. Vous allez me dire que tout ce que la dame a dit, le chef de l'État n'était pas au courant. Il y a des doléances qu'on fait à un président. Si le président a été élu sur un programme, s'il n'arrive pas à vous satisfaire, lors des prochaines élections, vous ne votez pour lui. Vous ne votez pas pour lui.
Mm-hmm.
Les doléances là, sont faites à un roi, le chef de l'État, le président Formiati, c'est un président. Donc, arrêtons de... Donc, bonne journée.
Bonne journée à vous. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, Jacques qui a posé le problème. Jacques a dit souhaiter que prochainement, un autre fils, une autre fille de la région des Savas ne vienne pas répéter les mêmes chapelets. C'est pour dire que le chef de l'État a l'impérieux devoir de trouver des solutions à ces préoccupations de nos compatriotes. Merci Benoît Dagoué qui passe sur le témoin au suivant. Bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Sylvain Agbaï.
Oui, Jean.
Yo.
Oui, merci. Effectivement, vous l'avez dit, ces parlementaires, il y avait eu des conférences, des colloques plus que celles-ci. Mais qu'est-ce qui a fait? C'est la mise en œuvre des communiqués après ces conférences.
Oui.
Vous l'avez dit, il faut qu'on mette ces communiqués après ces conférences en œuvre.
Oui. Tout.
C'est tout. Il faut. Moi, je l'ai dit à l'autre fois, Monsieur Djakouti. Il faut que le chef de l'État fasse confiance aux hommes de lui, aux hommes de Dieu. Les confier des projets, les fonds, les remettre.
Sylvain Agbaï, les hommes de Dieu officient dans les mosquées, dans les temples, dans les églises. Et le chef de l'État, il est président laïque de la République. Et évitons de confondre les attributions, les rôles.
Et on ne fait plus confiance à ces ministres-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce qu'on peut faire.
Merci. Là où vous avez raison, c'est que ce que Sylvain Agbaï dit et que Benoît Dagoué a dit et que Jacques disait aussi, c'est de confondre que le Togo n'abrite pas seulement des rencontres internationales dont nous n'avons pas toujours des solutions à nos problèmes concrets.
Ah oui. C'est ce qui est bizarre.
Merci beaucoup,
Sylvain Agbaï. Et puis on avait fait ça, monsieur, se rencontre, c'est pour sauter des champagnes. Merci.
Merci, Sylvain. Et un troisième auditeur au bout du fil.
Allô?
Oui, bonjour.
Allô, bonjour.
Bonjour à vous.
Et c'est monsieur Kodjo.
Kodjo.
J'appelle de Mission Tové.
Ah, Kodjo qui appelle Kodjo de Mission Tové.
Oui.
Ça, nous sommes ensemble vraiment.
Par rapport à, j'ai pris l'émission au beau milieu là, j'ai pu entendre parler de l'enrôlement des jeunes dans l'armée.
Bon, entre autres pistes que nous avons évoquées.
Voilà, ce que vous avez dit là, pour pouvoir combattre beaucoup de choses, vous êtes des journalistes, c'est à vous de faire la proposition au chef de l'État pour l'aider aussi avec ses ministres qu'il travaille à mieux réussir. Maintenant, si on pouvait faire le recrutement par secteur, comme c'est scindé par zone militaire là, qu'il fasse le recrutement, si on te recrute à Dapaon, tu travailles à Dapaon, tu as plus le renseignement que quelqu'un qui vit à Lomé, qui va travailler, qui va pour chercher le renseignement à Dapaon.
Bon, ce que je sais, les forces de défense de sécurité ont leurs règles de recrutement, de formation. Mais ce que nous attendons, c'est que nous ayons une armée républicaine bien formée pour défendre la nation, que la recrue soit d'un point X ou bien d'un point Y. Et à côté des métiers militaires, nous avons également parlé des métiers civils sur lesquels on peut également faire beaucoup de promotions. Merci. Au suivant, bonjour.
Bonjour, c'est Komi.
Komi, notre cher plaisir. Abonné.
Oui, ça fait plaisir de vous avoir en 2023.
Plaisir partagé.
Et l'utilité, on le connaît de l'alternance, c'est bon aussi. Vous venez d'alterner au niveau de l'animation du Club de la Paix, c'est très bon. Deux sujets sur lesquels vous avez débattu. Le premier, l'agriculture. Moi, je veux savoir quelle est alors l'utilité des experts qui sont dans le ministère de l'agriculture. Si ce sont les parlers de cette dame-là qu'on qualifiera de réalité, alors que vous, les experts du ministère de l'Agriculture. Deuxième préoccupation, surtout sur l'agriculture, lorsque nous prenons les 4x4 conduits à ce niveau, leur déplacement, les t-shirts arborés, ça suffit largement pour faire encore un forage pour pouvoir permettre à un agriculteur d'évoluer. Si après 60 ans, on continue dans cette perspective, je ne pense pas qu'on va bien manger à notre faim. Deuxième préoccupation, c'est, la réunion dont vous aviez parlé. Monsieur Sass, il y a quelque chose qui se passe lorsque les gens se réunissent à Lomé. Un matin, vous vous levez, vous n'avez plus accès au rayon de 2 février. Et quand vous voulez, vous devez contourner. C'est après que, quand vous captez la radio, que vous sentez qu'il y a une conférence qui doit se faire. Comment on peut à chaque fois faire peiner ses propres populations à raison de d'autres personnes? Plus loin, qu'est-ce que ces gens-là viennent de dire d'objectivité que vous, journalistes, vous n'avez pas encore dit ici? Chaque matin, vous demandez à l'autorité de nous trouver du travail, nous jeunes, qu'on soit occupés. Qu'est-ce que ces gens viennent de dire d'extraordinaire que vous n'aviez pas encore dit au club de la fête, presque ici? C'est comme si au Togo, nous aimons fêter à la place du travail. Et après, les conclusions ne sont pas appliquées. Je donne l'exemple de Emarito. Lorsqu'on a fini les sommets maritimes, des gens ont fait des recommandations. On a formé des jeunes qui sont encore laissés pour compte, qui ne sont pas recrutés. Si on va continuer dans cette perspective, lorsque l'OTR va demander 200 personnes, vous allez vous retrouver avec 22 000 qui demandent de l'emploi. Et ça nous énerve.
Merci, Komi. C'est les préoccupations de la population au jour le jour. Juste nuancer que Emarito, c'est un projet privé. Dans les suites de la conférence sur le sommet maritime. Et puis, ce que vous avez dit sur les programmes agricoles, les projets, à quoi servent les experts, peut-être que Jacques va dire un mot là-dessus. Le temps que nous recevions l'auditeur qui est en ligne. Bonjour.
Bonjour, Saf Gaou.
Oui.
Bon retour.
Oui, merci. Bonjour, l'ami.
C'est la Richard depuis le Danemark.
Notre ami depuis Copenhague, au Danemark.
Ouais. Permettez-moi de féliciter la jeunesse de la Favane. Franchement, c'est une jeunesse qui se bat très fort. La dernière fois, j'étais au Togo, j'ai fait un tour dans la Favane. Sincèrement, j'étais très jeune. Mm-hmm. J'ai remarqué leur. La manière dont ils travaillent, tu as dit, c'est très difficile de trouver un jeune qui n'a pas d'emploi. Vous êtes à Dafan ou bien à Fécancé, votre voisin perd une poule, vous qui ne travaillez pas, on va vous pointer le doigt. C'est le moment aussi d'encourager cette jeunesse. Comme le président l'a fait la dernière fois, c'est une jeunesse qu'il faut beaucoup encourager. Mm-hmm. C'est une jeunesse qu'il faut beaucoup. Bah, des fois, je me demande, elle est laissée par. Par contre, mais je ne sais pas quelle chimie qu'il faut faire. Je demande, bah, tout à l'heure, les frères jeunes en train étaient rentrés sur la radio. Ils parlent, je me demande, ils n'ont qu'à aller faire un tour dans la savane. Ils verront, quand ils vont rentrer à Lomé.
L'ami Richard, nous sommes au contact de nos compatriotes tous les jours. Vous les avez seulement vus pendant que vous étiez en vacances. Richard, nous sommes au pays, nous les rencontrons au jour le jour.
Mais allez toucher vos doigts, allez voir là, cette jeunesse, comment ils se battent.
Ok, merci. Nous prenons acte que vous avez vu les jeunes dynamiques de la jeune savane.
La deuxième question, c'est pour le docteur.
Oui.
Dites-nous, quels aliments faut-il, quels sont ces aliments qu'il faut il faut toujours éviter, pour, comme un athlète, pour ne pas être testé, un testé de dopage.
Merci beaucoup. Les aliments à éviter pour ne pas être victime de dopage, bien malgré soi. Là, le dernier intervenant aujourd'hui, bonjour.
Salam alaikum, monsieur. Ah,
monsieur Waris.
Bon retour à vous.
Merci.
Et bonne année à vous.
À nous tous.
Merci. Je salue tout le plateau. Je pense que vous avez parlé du journaliste qui a été assassiné au niveau du Cameroun.
Qu'on a retrouvé assassiné.
Assassiné, c'est ça. Bon, monsieur Sass, je pense que aujourd'hui, c'est un peu triste. C'est regrettable aujourd'hui que vous, les journalistes, qui nous informent, que vous vous retrouvez dans cette situation. Je pense qu'un pays qui a ratifié des traités de droits de l'homme, je pense... Allô?
Oui, oui, allez-y. Ah, il est parti. Merci, merci beaucoup à vous tous qui avez pu entrer en ligne. Nous excusons pour ceux qui ont dû attendre bien malgré eux. Jacques, rapidement, un auditeur est venu sur à quoi servent nos experts agricoles, tous ces programmes et projets agricoles dont on ne sent toujours pas les fruits.
Non, je crois qu'il faudrait aujourd'hui ça, qu'on se dise la vérité. C'est pourquoi tout au début j'avais dit qu'il faudrait que les chapelets que cette dame-là a égrené quand le chef de l'État était dans la savane, qu'on ne puisse plus revenir encore sur ce même sujet. C'est-à-dire qu'il faut mettre en œuvre. Il faut mettre en œuvre toutes ces recommandations. Il faut quand même commencer. Le peu qu'il y a, le peu de moyens qu'il y a, il faut commencer déjà par effectivement exécuter ce genre de projet. Mais si on se tait, on laisse, l'année prochaine on revient et les mêmes demandes reviennent encore devant le chef de l'État.
C'est ça pas devient bien. Lassant.
Voilà, vous voyez, finalement ça ne fait même pas honneur à ceux qui organisent ce genre de rencontres et ça ne fait pas honneur à celui que vous mettez comme premier Togolais devant effectivement ces populations-là pour que chaque fois on puisse répéter les mêmes choses. Les experts sont là, les experts font leur travail, quoi qu'on dise, hein. Enfin, il faut le reconnaître. Les experts sont là pour aider, ils sont là effectivement pour orienter nos populations par rapport aux semences et par rapport également à ce qu'ils doivent faire au niveau des champs. Ça, il faut le reconnaître, ils font leur travail également.
Merci. Et puis, Arim Yaou, de ces programmes, projets agricoles, à toutes les conférences, quand on écoute les auditeurs, ils ont l'impression que toutes ces rencontres nationales ou internationales que Togo abrite, ça ne leur apporte rien au quotidien.
Non, je crois qu'il ne faut pas faire l'erreur de dire que toutes les rencontres ne rapportent rien. Et tout à l'heure, quand on a parlé de la dernière rencontre, on a vu qu'il y a eu des recommandations. Et j'ai entendu l'auditeur dire que les recommandations ne sont pas appliquées, qu'on ne les sent pas. Et je ne peux pas croire que toutes les recommandations qu'on annonce lors des grandes rencontres de haut niveau au Togo ne sont pas appliquées. Il y en a qu'on applique, certes. Mais on ne peut pas dire que sur 1000 recommandations ou 100 recommandations, tout est rentré en branle et qu'on a tout appliqué. Certaines s'appliquent quand il y a la possibilité de le faire et d'autres, ça prend le temps que cela pourra prendre. Mais l'idéal, c'est d'avoir la volonté d'abriter de ces rencontres et surtout qu'ils ne perdent pas de vue que quand les gens viennent, les hôtels togolais marchent, les gens consomment togolais, les gens achètent dans nos supermarchés. Ne vous perdez pas de vue que quand quelqu'un prend un visa, il va en France ou en Allemagne, les Allemands ils sont très regardants. Vous allez en Allemagne parce qu'on vous a donné un visa quand vous revenez et le consulat observe que vous avez fait la grande partie de vos achats en terre allemande. Ils sont contents parce que ça fait une plus-value, quelque chose de plus. Qui rentre en Allemagne et pour
quand
moi.
Quand vous demandez le renouvellement de visa, c'est vite accordé.
C'est vite accordé, voilà.
Merci.
Donc, ce n'est pas pour rien que les gens doivent
merci
savoir.
Merci, docteur. Il y a un intérêt à rapidement, le faire. Un auditeur voulait savoir l'alimentation que vous conseillez ou que vous déconseillez aux sportifs pour qu'ils ne soient pas pris dans le filet du dopage.
D'accord, merci. C'est vrai qu'on n'est pas là pour parler du dopage, mais on va y aller. On parle de dopage. Que par rapport à un certain nombre de substances ou de techniques dites dopantes. Donc, un certain nombre de substances. Donc, il y a une liste des substances qui sont dites interdites, qu'il ne faut pas prendre, ou des techniques qu'il ne fallait pas utiliser hein, pour se doper avant d'aller en compétition. Maintenant, quand nous parlons de l'alimentation, donc ça veut dire ce que la personne mange naturellement. Il est vrai que ce que nous mangeons contient après tout une substance, d'accord, qui peut peut-être se retrouver parmi les substances dopantes. Il ne faut pas oublier que quand on dit substance dopante, il y en a plein en pharmacie qui sont utilisées pour soigner à l'hôpital et tout, par le corps médical, mais que les gens détournent à des fins de dopage. Donc, ça peut se retrouver dans ce que nous consommons. Ça peut se retrouver dans ce que nous consommons. Et malheureusement, si par hasard quelqu'un est testé et que le taux dépasse les taux admis, on peut le déclarer.
C'est-à-dire qu'un sportif d'un certain niveau doit savoir ce qu'il mange et ce qu'il boit.
Voilà.
Même les médicaments qu'il prend.
Voilà. Et donc il est responsable de ce que lui-même il mange, de ce que lui-même il boit et des médicaments qu'il prend. Il est responsable de ça.
Je me rappelle ce gardien de but ivoirien qui a pris un médicament pour soigner un mal de dents. Et qui a été déclaré comme tombé dans le piège.
Comment peut-on le croire quand il dit ça?
En fait, c'est pourquoi lui, il dit.
Voilà ce que lui dit.
Oui.
Maintenant, c'est difficile de le croire. On ne peut pas dire qu'il ment,
mais c'est difficile de le croire. Donc, encore une fois, mieux vaut éviter.
Forcément, il va être sanctionné. Donc,
très rapidement, vos cartons de fin d'émission, Jacques Jacouti.
Avant d'aller au carton, je voulais inviter le ministre des Sports à interdire aux fédérations, c'est-à-dire que aux équipes dans nos villes et localités, d'éviter de prendre les joueurs dans les tricycles. Il faut éviter ça, c'est pas bien. Il faut éviter. Même si vous ne pouvez pas prendre un bus, laissez les gens marcher, mais évitez qu'ils prennent les tricycles. Je voulais maintenant terminer ça en mettant en garde également les jeunes filles qui nous écoutent actuellement. C'est une radio de grande écoute. Je voulais inviter les jeunes filles à faire très attention dans ces temps-ci, ici au Togo, surtout à Lomé. Vous allez voir des jeunes qui sont très bien habillés, très tirés sur leur... comment on appelle ça? Oui. C'est-à-dire qu'ils sont très bien habillés. Et vous allez les voir, ils tiennent toujours des mallettes. Ils circulent dans la capitale. Au fait, c'est des escrocs. C'est des escrocs. Et ils invitent nos filles à aller manger quelque part. Et après, c'est des problèmes. Ouais. Jeunes filles, si vous êtes à l'écoute, faites très attention.
La police a même fait une communication.
Actuellement, à Lomé, ils sont pleins. Vous allez les voir en pleine journée, ils sont bien cravatés, ils sont bien habillés, ils tiennent des mallettes, alors que c'est des faux.
Attention, jeune fille, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Arrive, Nyanyaou.
Non, bon, je n'ai pas de carton, mais rapidement, je voulais rappeler que à l'heure où nous sommes ici, il se passe de belles choses au niveau de la région centrale, notamment avec la nationale numéro 14, Sokolé, Chamba, Kambolé, la frontière du Bénin, où on est en train aujourd'hui. La dame, madame, la première ministre elle-même est en train de lancer les travaux de réfection de cette route-là, qui est dégradée il y a plus de 15 ans. Donc, aujourd'hui, ça veut dire qu'à ce niveau précisément, les gens sont très contents. Merci. Les gens vont pouvoir se déplacer aisément.
La Chamba, Kaboli, frontière du Bénin, d'une distance de 86 km, dont la première ministre lance aujourd'hui même les travaux d'aménagement, de réhabilitation. Carton
vert,
verdissant pour dire ici. Eh bien, l'ami Wenmi, au nom du ministère des Sports, un carton de fin d'émission.
Oui, un carton, carton vert hein, à Canal FM qui informe beaucoup la population. Et pour finir, je voudrais remercier tout le monde sportif, tout le mouvement sportif. Et qui a participé à l'atelier, tous les autres acteurs également, et inviter chacun à jouer sa partition et à toujours avoir à l'esprit l'intérêt de notre pays, le Togo. Et maintenant, pour finir, je voudrais profiter de quelques secondes pour rappeler à nos populations que le samedi prochain, ce sera le dernier samedi du mois de janvier. Et voilà, comme cela a été instauré par le gouvernement, nous observerons la journée nationale du sport. Et pour rappeler que le sport, c'est cette pharmacie à zéro franc là qui nous aide à nous maintenir en bonne forme, donc tous dans nos communes pour le sport le samedi 28.
Ce sera le dernier samedi du mois de janvier pour clore la janvieuse par une bonne pratique sportive. Docteur Kwata Cédro, votre carton de fin d'émission?
Carton vert aux participants à l'atelier des 18 et des 19 qui sont venus de toutes les fédérations, des institutions, des athlètes. Et nous avons travaillé dans un esprit de construction. Dans un esprit, je ne sais pas comment le qualifier. En tout cas, dans un esprit convivial, et on a bien réfléchi, et de bonnes choses sont sorties.
Merci, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine est bien lancée. Donnons-nous carton vert d'optimisme et de positivité pour que cette semaine nous produise de bons fruits au club de la presse et dans tout ce que nous faisons au jour le jour. Rendez-vous demain, Michel, si Dieu le veut, et les dieux de Baroubé le voudront.